Ben, bonjour tout le monde, bienvenue à ce partage qui n'avait pas lieu, supposément, qui n'avait pas supposément avoir lieu, mais le Seigneur en a décidé autrement. On est le 23 décembre, et puis le Seigneur avait prévu qu'on se réunisse ce soir, même si nous, on n'avait pas prévu. JP applaudit, content. Merci Seigneur. Et puis aujourd'hui, on est avec JP dans la salle, on a Princesse Nicole au bout. La princesse Claudia, princesse Hélène, le prince JP, la princesse Marilyn, princesse Bulle et votre serviteur pour vous servir. On veut saluer les gens sur Internet. On veut saluer Claire, qui va être surprise parce qu'elle s'attendait qu'elle n'ait pas de message. Bonjour Claire, la famille Chabot te salue, tout le monde te salue chaleureusement, que sois béni. Et puis que Dieu te bénisse abondamment pendant la période des fêtes. On veut saluer les gens sur Internet. On va n'oublier, mais Pasteur Laurier avec Raymond, puis tous les gens de Saint-Just, de l'Église de Saint-Just qu'on salue chaleureusement, qu'on aime, les gens qu'on aime, nos frères et sœurs. Bon, on veut saluer Rémi. Nicole a dit, je veux dire salut à Rémi. Fait que je vais lui dire qu'il écoute demain, hein. il a dit si il aurait fait les mardis, il serait venu. Il dit, j'aurais besoin de ça, là. T'avais de venir. C'est ça. Puis, ah oui, puis il n'y a pas personne qui me souffle à l'oreille, hein? Mais quelqu'un qui m'a dit « Réginald! » Fait que je te demande pardon de ne pas y avoir pensé moi-même, Réginald. On veut saluer Réginald et son épouse, sa charmante épouse, Denise, qui sont des femmes et des hommes de Dieu, qui ont des vies données. Et puis, on veut vous saluer, puis on veut que vous soyez bénis abondamment. Et puis, on salue les gens qui nous écoutent sur Radio et Prédication, et les gens qui nous écoutent, donc, on n'a aucune idée combien il peut y avoir de personnes qui écoutent les partages, mais il y a environ 200 personnes, entre 150 et 200 personnes qui reviennent à toutes les semaines pour écouter, pour voir les messages. Puis ça, c'est gloire à Dieu, hein, parce que c'est pas nous, c'est pas, hein, c'est Dieu qui fait ça, c'est son œuvre. Nous, on met les messages sur Internet, c'est lui qui attire, hein. Puis, nous autres, on est des serviteurs. Puis on essaye du mieux qu'on peut d'être sur nos genoux et pour faire la volonté de Dieu, parce que c'est vraiment ce que Dieu a, c'est à ça qu'il nous appelle, de faire sa volonté. Puis Claudia nous parlait de ça aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il y a un petit partage spécial que j'ai coupé parce qu'il était trop long. J'ai fait plutôt, je vais raccourcir aujourd'hui parce qu'on a une soirée spéciale. Et puis on fera pas de révision parce que la semaine passée on a fait une révision. On fera pas de révision à un moment donné. Il faut arrêter de faire des révisions. Il faut passer à d'autres choses. Aujourd'hui, le titre du message, c'est gloire à Dieu. C'était pas ça là, mais là ce soir c'est ça, c'est gloire à Dieu. Et puis, ouais, on peut l'applaudir. Et puis, si vous voulez, on va prier. On va remettre ça au Seigneur et puis on va commencer à voir ce qu'il avait à nous dire ce soir, ce qu'il a à nous dire. Seigneur, on veut te dire merci de la grâce qu'on a d'être ensemble ici ce soir, du local qu'on a ici. Et puis, de chacune des personnes qui sont ici ce soir, Seigneur, parce que c'est toi qui mets ça dans nos cœurs. Et puis, on veut pas être familier avec ça, Seigneur. On veut vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et puis, on veut proclamer, Seigneur, que tu es notre grand Dieu, que tu es le premier dans notre vie, et puis que l'objectif dans notre vie, Seigneur, c'est de te servir, de mieux te connaître pour mieux te servir, pour être des serviteurs fidèles et des vases d'honneur, des ambassadeurs de Christ dignes de ce nom. Et puis, Seigneur, on te demande de venir faire ce travail en nous, parce qu'on étudie ta parole pour que tu puisses changer nos cœurs, Seigneur, parce que nos cœurs sont mauvais. Et puis, on puisse vraiment... comme d'habitude, on va te réclamer cette promesse comme on le fait à toutes les fois parce qu'on ne va pas être familier là-dedans. Mais tu as dit à chaque fois que vous réclamez quelque chose dans le nom de mon Fils Jésus, je vous le donnerai. Et puis ce soir, on te demande de venir ouvrir les yeux de notre entendement, de venir nous ouvrir les yeux de notre cœur, ouvrir notre entendement, de venir notre intelligence pour connaître ta parole, Seigneur, pour mieux te connaître et venir enseigner nos cœurs. Puis venir nourrir notre âme par ta parole, Seigneur, pour qu'on puisse être béni et puis qu'on puisse être de meilleurs représentants. Puis on te prie ce soir dans le nom de ton glorieux Fils Jésus. Amen. Et puis ce soir, c'est ça, c'est gloire à Dieu. Finalement, gloire à Dieu. Vous savez qu'on est dans une étude de l'Église, hein? On est dans l'étude de l'Église. Et puis ça continue, je ne sais pas quand ça va arrêter. C'est le Seigneur qui va sûrement mettre un stop quand lui aurait décidé de faire un stop. Mais la parole de Dieu, on en a pour l'éternité, hein, à étudier ça. Parce que vraiment, il y a des choses que on se rend compte qu'à toutes les fois, on se réunit deux fois par semaine, 45 minutes, puis il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur vient nous amener. Puis il y a toujours de la bonne nourriture que le Seigneur nous donne. De la manne cachée. Hein? C'est la manne cachée, ça. Amen. Et puis Dieu, il avait choisi le peuple d'Israël comme peuple élu afin d'en faire une nation sainte de sacrificateurs. Ça, on voit ça dans Exode 19:6. Et puis, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, Dieu fonda l'Église de Jésus-Christ. C'est parce qu'eux autres, ils ont rejeté Jésus que nous, on a eu la chance d'avoir cette chance-là d'être sacrificateur pour Dieu, d'être nommé sacrificateur pour Dieu. Et puis, Dieu a retiré le privilège et l'exclusivité, le privilège de l'exclusivité, parce qu'il y avait l'exclusivité avant. Mais là, il leur a retiré ce privilège de l'exclusivité-là parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Et puis là, il a étendu le salut aux païens. Donc, et puis il a donné le cadeau de la vie éternelle aux païens par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ pour faire de son Église son instrument. Donc, Israël est la branche de l'olivier qui a été retranchée. Souvenez, dans Romains 11, qu'on voit ça. On va avoir beaucoup de références ce soir. Le message n'est pas long, mais de votre côté, il y a beaucoup de références. Allez voir, allez étudier ce qui est écrit là-dedans. Et puis, nous, on est la branche de l'olivier sauvage qui a été greffée au tronc. La branche de l'olivier sauvage représentant la période où on est, c'est-à-dire la période de l'Église. On comprend ça? Donc, pendant cette période-là, on est l'instrument représentant Dieu sur la terre. L'Église, c'est l'instrument que Dieu a utilisé, a choisi pour se faire représenter. Donc, nous, on représente Dieu autour de nous. Nous sommes supposés, dans notre agissement, dans nos façons de répondre, dans nos façons de faire des choix, représenter Dieu dans tout ce qu'on fait. Dieu s'est donné lui-même pour son Église, Éphésiens 5:25. Le principal but de Dieu, c'est l'édification de l'Église. Donc, il a dit, je bâtirai mon Église. Hein? On pourrait dire que l'Église est un groupe de personnes appelées hors de. On sait que l'Église, le mot Église, ça veut dire appelé hors de. Hors du monde et du péché, appartenant au Seigneur. Seul le Seigneur bâtit son Église. Hein? On revient là-dessus souvent, parce que souvent on est tenté, nous, l'être humain, de partir avec nos propres forces et commencer à autant bâtir une Église. C'est comme pas une bonne idée, parce que c'est Dieu qui bâtit son Église. Lui, il a besoin de serviteurs qu'il va pouvoir utiliser. Il n'a pas besoin de gens qu'il n'est pas capable d'utiliser, parce qu'ils ont des bonnes idées. Vous comprenez? Donc ça fait partie du processus de sanctification. Matthieu 16:18, il a dit, moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Puis en Actes 2:47b, ça dit, et le Seigneur ajoutait, pas les apôtres, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On parle en 3 et 5 000 dans ce temps-là. Acte 9:31, ça dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pas par l'assistance de l'homme, par l'assistance du Saint-Esprit. Il vint nouveau dans des autres nouvelles. Hein? Matthieu 9:17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent, les deux. Donc, L'Église universelle, donc on pourrait dire l'Église véritable. Hein? L'Église universelle, c'est l'Église véritable. C'est celle, on parle d'Église, peu importe la race, peu importe le... C'est l'Église universelle partout dans le monde, c'est l'Église véritable. C'est pas le produit des efforts de l'homme. C'est pas le produit des efforts des hommes. C'est pas une organisation, mais c'est plutôt un organisme. Hein, sa vie, l'Église, sa vie, c'est un corps, le corps de Christ, sa vie. Dans Hébreux 13, 23, ça dit, cette Église est appelée assemblée des premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau. Encore là, on vient mettre, planter le clou sur la nouvelle naissance. Est-ce que les gens sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu? Est-ce qu'ils ont entendu, ils ont reçu quand Jésus disait dans les églises, es-tu sûr que tu as reçu de la bonne façon, que tu as entendu que tu as reçu de la bonne façon? Donc, la nouvelle naissance, c'est la première condition dans la fondation de l'Église. C'est la première condition. La seconde, c'était le baptême du Saint-Esprit, mais ça, on sait que ça vient avec la nouvelle naissance. Bon, le Saint-Esprit, il descend automatiquement quand que nous avons accepté Jésus-Christ vraiment avec notre cœur et qu'on est, on expérimente cette nouvelle naissance-là, le Saint-Esprit descend. C'est pas tout à main. Je vous dirais, moi personnellement, le Saint-Esprit est arrivé quelques jours plus tard. Je l'ai jamais raconté. Je l'ai raconté seulement à une personne. Puis à un moment donné, j'étais couché. Je vais vous le raconter parce que c'est un jour spécial. Mais j'étais couché dans mon lit et puis j'ai vu quelqu'un arriver. J'ai carrément vu quelqu'un arriver par la porte, puis il rentrait en arrière de moi, puis il rentrait. Mais j'avais quelque chose qui me disait, c'est pas grave, c'est correct. Tu sais. Puis là, j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il m'a répondu par la parole dans Luc, que c'est le Saint-Esprit avait la forme humaine. Il avait été venu avec une forme humaine. Vous regarderez dans Luc, il dit pas comme une colombe, il dit comme une forme humaine qui descend comme une colombe. Et puis, c'était le Saint-Esprit qui venait de recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est pas arrivé au moment où ce que j'ai senti Jésus vraiment me sauver. C'est arrivé peut-être quelques jours plus tard. Mais je pense que c'est différent avec chacune des personnes. C'est une expérience qui est différente. Moi, c'est arrivé comme ça. Et puis, dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, la Bible déclare qu'au commencement, ce baptême a eu lieu le jour, la première fois que ça s'est manifesté, la Bible déclare, c'est pendant la Pentecôte. Vous vous souvenez? C'est la première, c'est pas tout à fait vrai. Hein? On a vu ensemble dans une étude que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit avant ça. Quand Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit à ses apôtres », c'était avant la Pentecôte. Sauf que le ministère du Saint-Esprit, il a commencé à la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais officiellement, le ministère du Saint-Esprit a commencé à Pentecôte. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, le ministère en tant que tel a commencé à Pentecôte. Et puis, mais il l'avait reçu avant. Les disciples l'avaient reçu avant. Ouais. Il n'y a pas de condition spéciale autre que recevoir Jésus-Christ. Tu sais. Il y a bien des choses qui sont dites là-dessus, mais c'est pas fondé bibliquement. Comme ils se trouvaient dans Acte 1, verset 4-5, comme ils se trouvaient avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, dans Acte 2, 1, verset 1 à 4, ça dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, dans Acte 11, versets 15 à 17, ça dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » C'est les paroles de Pierre, quand il était chez Corneille. Ça, vous vous souvenez? Il est allé, Pierre, il avait dit, tu es mange. Le Seigneur avait donné une vision. Puis il y avait une nappe qui avait descendu, puis il avait dit, tu es mange. En voulant dire, c'est fini les histoires de loi. Il dit, tu sais, il avait pas le droit aux autres de manger, toutes sortes d'affaires. Mais là, le Seigneur dit, non, 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 c'est fini ça, la loi. Dit, maintenant, tu vas aller chez ces gens-là. C'était des païens. Corneille, c'est un païen. Il est allé, il a annoncé, puis il a vu recevoir le Saint-Esprit. Donc, il dit, je peux-tu m'opposer au Seigneur? Je pouvais pas m'opposer à la volonté du Seigneur, hein? Donc, le Seigneur est le chef suprême de l'Église, on a vu, hein, dans Éphésiens 5, 22, il a tout mis sous ses pieds, il leur a donné pour chef suprême. Ensuite, pourquoi on devrait assister au rassemblement? Pourquoi on devrait se réunir? Dieu a établi des hommes, plus des dons. Moi, je phrase ça un petit peu autrement, là. C'est pas tellement à l'homme, faut pas donner l'importance à l'homme, mais Dieu a donné des dons. Il a attribué le Saint-Esprit qui fait ça, à attribuer des dons à différentes personnes pour l'édification du corps. C'est pour ça qu'il faut assister au rassemblement, parce qu'il y a une provision. Le Seigneur, là, il a mis des provisions incroyables à notre disposition pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut se rassembler. Le Seigneur a voulu que ce soit comme ça. On voit que dans 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir. Donc, il y a plusieurs dons qui ont été mis à la disposition des croyants dans le corps. Et puis ça, c'est la raison pour laquelle on doit, quand on se réunit pas, quand on reste à l'écart, on se prive de ces bénédictions-là que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Donc, en tant aussi qu'épouse de Christ, l'Église, qui est sa fiancée, doit être fidèle. Hein, on doit être fidèle. Et puis, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques 4, 4, verset B. Là, on arrive au point, là, on a fait un ébauche un peu, mais on arrive au point crucial du, pas crucial, mais le point principal du message qui était, le titre du message c'était gloire à Dieu. Puis l'Église, la première mission de l'Église, c'est quoi? Gloire à Dieu. C'est glorifier Dieu. Là, je vais vous donner une série de versets que vous pourrez étudier à la maison. Il y en a beaucoup. Vous allez avoir les papiers, ceux qui sont ici. Il y a beaucoup de versets. C'est juste des versets. Donc, on y va avec des références bibliques. Fait que là, ceux qui prêchent puis qui donnent seulement qu'un ou deux versets, quand ils prêchent, là, ils vont dire, lui, il donne même trop de versets. Mais nous, on n'est pas au lait. On est à l'étude. On veut avancer avec le Seigneur, donc Romains 15, 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, 9, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Éphésiens 5, versets 5 et 6, Éphésiens 1, pardon, versets 5 et 6, nous, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens 1, 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens 1, 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On a une idée, hein? Ça nous donne une idée. Éphésiens 1, 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, pour que vous vous rendiez compte comment c'est important ce que vous êtes en train de faire. Ne soyez pas familier avec la parole de Dieu, avec les rassemblements. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Éphésiens 3, 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. 2 Thessaloniciens 1, 12, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, la tâche est de glorifier Dieu. L'Église, on en a vu plusieurs. On va en voir d'autres, c'est pas fini. On voit que c'est une des tâches importantes de l'Église, c'est gloire à Dieu. Ouais. Donc, la tâche est si fondamentale que si elle est accomplie fidèlement, si on accomplit cette tâche-là fidèlement, toutes les autres vont être accomplies aussi. Si on donne gloire à Dieu, à tout ce qu'on fait, si on rend gloire à Dieu dans toutes nos activités, dans notre travail, dans nos relations, tout le reste qu'on va voir, parce qu'on va avoir d'autres études, là, ça va tout s'accomplir tout seul. Donc, on glorifie Dieu de quelle façon? Premièrement, on glorifie Dieu en l'adorant. Jean 4, 23-24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Philippiens 3:3. Car les incirconcis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Apocalypse 22:9. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Quand Jean est tombé à pleine face devant l'ange pour l'adorer, il dit, je suis ton compagnon et celui de tes frères et les prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de ce livre, adore Dieu. Il t'adore mon Dieu. On glorifie Dieu aussi par la prière et par la louange. Le psalmiste écrit dans Psaume 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » On glorifie Dieu aussi par nos actions, par la façon dont on se comporte. On glorifie Dieu aussi également en vivant une vie sainte. Jésus dit dans Jean 15:8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans 1 Pierre 2:9, et puis ça c'est le dernier verset qu'on va voir à soir, je vous ai bombardé, mais c'est pour vous donner des études parce qu'on s'en va, on n'aura pas pris vraiment de vacances, là. On n'a pas pris finalement. Mais il y a beaucoup de matériel là-dedans. C'est pour ça que j'ai coupé. J'ai coupé en deux. J'ai fait deux messages plus courts. Et puis, il y a beaucoup de références qui viennent appuyer ce qu'on dit. Et puis, on va terminer avec 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bon. Un petit dernier. Titre 2:10. Et puis, c'est Paul qui exhorte Tite. Et puis, il dit à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, c'est une des étapes. On voit une partie de ce que l'Église, du mandat de l'Église, c'est glorifier Dieu. Puis, on peut glorifier Dieu de plusieurs façons. Glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie, on peut glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. On peut rendre gloire à Dieu. Et puis, plus qu'on va le faire, plus qu'on va être des serviteurs aussi. Là. Moins qu'on va s'attribuer des choses pour nous. Et puis, ça termine le message d'aujourd'hui parce qu'on a une surprise pour vous autres, mais vous ne le savez pas. Et moi et Marie, on le sait. Puis, on va prier. Puis, on va faire ça ensemble après. Si vous voulez, on va prier. On va mettre ça au Seigneur. Ben merci, Seigneur, pour ces enseignements ce soir. Merci qu'on va pouvoir y revenir parce qu'il y a beaucoup de versets. On puisse étudier à la maison, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous guider, puisse nous donner la révélation. Et puis, on veut te remercier pour cet enseignement qu'on a eu, Seigneur. Et puis, si tu as entendu ce message ce soir et puis que tu entends toutes sortes de choses parce qu'on est dans la période des fêtes, ben nous, les périodes des fêtes, c'est rendre gloire à Dieu. C'est un Sauveur qui est né. Et puis, notre Sauveur est né... C'est juste une image, là, on partira pas sur la doctrine du 25 décembre, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que C'est qu'en ce moment, c'est la fête, on célèbre la naissance d'un sauveur. Et puis, c'est notre fête de Noël à nous, c'est ce qu'on veut célébrer, Seigneur, la naissance d'un sauveur pour nous, dans nos vies. Et puis, si tu as entendu ce message aujourd'hui et que tu aimerais avoir cette relation et puis de rentrer en contact avec ce sauveur, la Bible dit trois choses. Premièrement, que l'homme est privé de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23, dans Romains 6, ça dit que l'homme est séparé de Dieu. Dans son état actuel, l'homme, il y a une séparation avec Dieu. Et dans Jean 3, 16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1, 12, ça dit, à celui qui l'a reçu, il a cru et qu'il a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, on voit qu'il y a présentement une séparation, mais on voit aussi que Dieu a pourvu une solution. En son Fils, qui est venu mourir à la croix pour nous, qui nous prend tous nos péchés. Et puis la Bible dit qu'aujourd'hui, avec ton cœur, si tu prends cette décision, si tu te repens, si tu demandes pardon pour avoir fait ce que tu voulais de ta vie sans te soucier de Dieu, et puis qu'aujourd'hui, tu prends une décision pour Dieu, et tu décides de l'accepter comme ton sauveur personnel, comme Seigneur, comme Maître et Seigneur, et puis que tu le reçois dans ton cœur comme partenaire de vie, la Bible dit qu'aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu et que tu expérimenteras la nouvelle naissance. Ce qu'on parlait tantôt, ce qu'on a vécu nous ici. Et puis ça, c'est une expérience avec Dieu personnellement que tu vas vivre. Et puis que tu vas, à partir du moment que tu es né de nouveau, que tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Et puis si tu veux accepter ce cadeau que Dieu veut te faire aujourd'hui, bien, tu n'as qu'à prier avec nous dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur, je veux te prier pour les gens qui ont fait cette prière à la maison, que tu touches leur cœur maintenant, puissamment de ton amour, Seigneur, qu'ils ne puissent jamais douter qu'ils ont la vie éternelle, qu'ils vont passer l'éternité dans ta présence, Seigneur. Envoie-leur des ouvriers, qu'ils deviennent tes disciples, qu'ils deviennent le sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Merci beaucoup.